Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Bram FM. Nous sommes le mercredi 17 janvier, aujourd'hui au menu de l'émission de la littérature jeunesse avec Cécile Brosseau, chroniqueuse de Bram FM et aussi illustratrice qui vient nous parler de son ouvrage « Qui s'occupe de Martha ?». Au menu toujours de cette première partie d'émission, Noé nous parlera de ce qu'on met dans notre assiette et des effets sur notre santé. À 13h30, vous entendrez le journal régional proposé comme chaque jour par l'équipe du Graal. En deuxième partie d'émission, on reprend les bonnes habitudes. Je ne vais pas vous parler du fameux Dry January, ni du Air January que j'ai découvert hier. Je ne vais pas vous parler de sport et de bien-être. Je vais tout simplement vous faire travailler un peu votre occitan après une longue pause avec Michel Feltin-Palas et Radio Pays. Enfin, un don d'objet ayant appartenu à Germaine Ribière vient d'être fait au musée de la Résistance de Limoges. Le cartable de cette résistante limougeaude se trouve maintenant dans les vitrines de l'établissement. Parmi les récompenses d'après-guerre et les photos de famille, vous l'entendrez à 13h50 dans la chronique en Limousin qui sera suivie de la météo de demain. Vous êtes ici sur Bram FM jusqu'à 14h et nous sommes en direct. Et on commence cette émission avec le point info de la rédaction. Le procès de Lucas L pour incendie volontaire en août 2020 s'est terminé hier en fin d'après-midi, Thomas.
2 ans de prison ferme, voilà la condamnation de Lucas L. Le jeune homme est le meurtrier présumé de Justine Vérac, cette adolescente, assassinée à Brive en octobre 2022. Mais l'affaire pour laquelle il comparaissait hier au tribunal de Tulle est tout autre. Il a été reconnu coupable de destruction de biens d'autrui au moyen d'un procédé dangereux. En l'occurrence, il a mis le feu à une grange de l'exploitation agricole dans laquelle il travaillait à l'époque. Les faits remontent au 2 août 2020. Lucas L fait savoir par la voix de son avocat qu'il fait appel de sa condamnation.
Lucas L sera donc emprisonné pour une durée de 2 ans, condamnation qui devrait s'effectuer à la maison d'arrêt de Tulle, a priori, puisque sa peine n'excède pas 2 ans. La maison d'arrêt de Tulle, d'ailleurs, qui offre d'assez bonnes conditions d'emprisonnement, Thomas.
Un rapport du bureau de Tulle vient nous expliquer que les conditions d'hygiène sont assez bien respectées au sein des cellules de cette maison d'arrêt. Les parties communes sont de qualité. On parle ici des douches, de la bibliothèque, de la cour. Mais tout n'est pas parfait, bien sûr, comme presque dans tous les centres de privation de liberté en France, la surpopulation est de mise. Quasiment toutes les cellules sont occupées par 2 détenus au lieu d'un. Et autre gros problème, mais là qui ne touche pas que les prisons, les difficultés d'accès aux soins spécialisés. Lorsque les détenus sont malades, ils sont envoyés donc vers l'hôpital. Et ça, ça contribue à l'embouteillage des services médicaux.
Et puis en cette fin de semaine, ce seront les nuits de la lecture. Quel est le programme de cette année pour Tulle, Thomas ?
Eh bien, vous pourrez assister à des séances de lecture pour petits et grands aux librairies Préférence et Chante-Page. C'est organisé par l'association Peuple et Culture. Et puis, la médiathèque Éric Romer propose plusieurs activités samedi. Vous pourrez, par exemple, visiter les fonds anciens de la ville de Tulle. Ça vaut vraiment le détour, moi j'y suis allé, avec des textes qui datent, par exemple, du Moyen-Âge. Vous pourrez assister aussi à une démonstration de capoeira. Je sais, Eve, moi aussi, je cherche encore le lien avec les nuits de la lecture, mais ça risque d'être sympa à regarder. Emprunte un ou une bibliothécaire, pardon. Alors ça, j'avoue que c'est assez obscur et je crois que je suis pas le seul, mais a priori vous pourrez vous accaparer un ou une bibliothécaire de la médiathèque le temps que vous voulez pour faire des activités au sein de la médiathèque. On devrait y voir plus clair vendredi. Je vous prépare un petit reportage dessus.
Et on a hâte de l'écouter. Merci beaucoup Thomas. Et vous pouvez bien évidemment retrouver toute la programmation en détail sur le site internet Nuit de la Lecture, nuit au pluriel.fr. Merci Thomas, on te retrouve demain à 13h pour le point info de local et de l'antenne de Bram FM. Merci.
Vous êtes ici au 98.3 ou sur bramfm.com.
Bonjour Cécile.
Bonjour Eve.
Oui, c'est ton tour.
Oui, je suis là.
Tu es chroniqueuse à Bram FM et illustratrice jeunesse. Aujourd'hui, tu souhaites nous parler de ta dernière nouveauté qui s'occupe de Martha, apparaître ce mois-ci chez Utopique Édition dans la collection Bisous de famille. Utopique Édition qui était au micro de Bram FM le 12 octobre dernier. Vous pouvez réécouter le podcast pour tout savoir sur cette superbe maison d'édition. Peut-être avant de plonger dans ce livre, Cécile, rappelle-nous ce qu'est la collection Bisous de famille.
La collection Bisous de famille, c'est une collection où on aborde les sujets un peu délicats, sensibles, compliqués avec les enfants. C'est-à-dire, par exemple, le premier qui me vient à l'idée, là, c'est sur C'était comme ça avant, ou enfin, allez voir, et ça parle des pendus de Tulle, par exemple, la grosse journée vraiment affreuse qu'il y a eu ici. Ça parle de l'inceste, ça parle de, du deuil.
Violence conjugale.
Violence conjugale, c'est et alors sur le mais après c'est pas forcément évidemment on se dit bon c'est des sujets un peu sombres, mais les livres sont vraiment très beaux. Il y a énormément de sensibilité. Ils travaillent les auteurs avec Didier et Zad, donc ils sont les éditeurs chez Utopique. On est vraiment bien suivi, bien encadré. Il y a un comité de lecture. Il y a des questions posées pendant toutes les conceptions, pendant l'écriture. Et vraiment, il y a une grosse sensibilité et beaucoup d'attention apportée au texte, au pluriel d'ailleurs, parce qu'on fait vraiment attention. La manière de raconter ces trucs-là.
Et on va revenir aussi sur la nécessité d'aborder ces sujets-là. Qui s'occupe de Martha, c'est donc ton dernier ouvrage, votre dernier ouvrage, toi à l'illustration et Emmanuel Toussaint à l'écriture. Qui s'occupe de Martha, c'est un livre pour les petits, un livre outil pour expliquer à des 3-5 ans ce qu'est le placement en structure d'accueil, le pourquoi et le comment. Il concerne surtout les intervenants sociaux ou les éducateurs et éducatrices et aussi les autres métiers de la petite enfance, mais il est aussi accessible par tous les enfants. Alors qui est Emmanuel Toussaint ?
Emmanuel Toussaint, c'est une pédopsychologue. En fait, elle travaille dans la région nantaise. On s'était rencontrés en Vendée pendant un salon. Et elle était venue me voir sur, à l'époque, un album que j'avais fait sur le deuil. Et puis, elle m'avait dit, est-ce que si moi, j'ai envie d'écrire quelque chose, parce qu'elle, elle est confrontée, bien évidemment, dans son métier, à tous les tracas petits et grands, énormes, même carrément les traumatismes, des enfants petits. Et elle m'avait dit, si j'ai envie, un jour, besoin d'écrire quelque chose, est-ce que c'est possible ? J'y vais bien sûr, mais je pensais pas à moi spécialement à l'époque, mais elle pensait à moi déjà. Et quand elle m'a recontactée il y a quelques années, elle avait écrit son texte et en fait c'était un texte alors qui s'occupe de Martha. On voyait bien directement que ça parlait. Alors c'est bien parce que c'est animalier. On va dire, c'est pas figuratif enfant, on va dire humain, c'est un petit animal, c'est une petite martre. Et elle s'adresse vraiment dans ce texte à des enfants petits. Vraiment, on pensait aux petits enfants de 3-4 ans, parce qu'elle en a rencontré des enfants qui étaient placés. Et les tout petits, bien sûr, même bébés, nourrissons, sont concernés par ça. Et elle, dans la pratique, elle a observé que les intervenants, les éducateurs, les gens qui s'occupaient de ces enfants, dès le départ, c'était très compliqué pour eux de comment on explique à un enfant de 3 ans tout ça, tout ce qu'il y a autour du placement, c'est-à-dire qu'on l'enlève de chez lui, de ses repères, ses parents, et il faut lui faire comprendre pourquoi c'est dysfonctionnel à 3 ans, et le ressenti de l'enfant, et qui est c'est compliqué. Et donc, un livre, parce que les enfants adorent les images, on voit qu'ils vont très vite vers les livres, vers l'illustration. Et les animaux, c'est des trucs qui parlent vraiment très très bien aux enfants. Donc, elle est venue vers moi avec ce texte. Et bon, moi, je savais au départ que c'était pas un texte qu'on allait... qui allait être plébiscité forcément par les libraires, parce que c'est pas un livre qu'on va recommander à des parents qui cherchent un livre, pas un livre à leurs enfants le soir. Mais on ciblait dès le départ, c'est vrai, l'aspect professionnel, enfin les gens, les encadrants, ceux qui interviennent auprès des enfants, pour que eux aient cet outil, ce livre en main, et qui raconte à l'enfant cette histoire, qui montre des scènes. Et dans le livre, on a vraiment fait des scènes qui parlent aux enfants, c'est-à-dire un enfant qui est triste, un enfant avec ses petits doudous, enfin un enfant, cette petite martre là, avec ses petits doudous, qui a peur, qui pleure, les parents qui se disputent, enfin un contexte, on va dire, de maltraitance, hein, ou de négligence, en tout cas. Mais je l'ai dessiné où les parents se disputent, et ça se voit sur les visages qu'il y a, il y a de la fâcherie, parce que avec les enfants, on est sincère, ils le voient. Hein. Les enfants, c'est pas la peine de leur dire que ça va si on est en train de pleurer, ils le voient très bien, quoi. Donc on montre les choses, mais il y a un côté un peu atténué, parce qu'évidemment, c'est des animaux.
Alors plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Il y a déjà le fait que tu as utilisé effectivement des animaux et des et non pas des humains. Néanmoins, ce sont quand même des animaux qui ont des habits, qui ont une maison. Enfin, on est un peu dans le domaine quand même, voilà, de ce qu'on connaît en tant qu'humain, même s'ils habitent dans une petite caverne et tout. Mais le fait que ça soit des animaux, ça permet aussi à tous les enfants de pouvoir s'identifier à la place de cette petite Marthe. Alors peut-être que si tu avais mis un visage sur un papa, sur une maman, sur quelqu'un qui accompagne ou même sur l'enfant, c'est plus difficile de s'identifier.
Oui, puis je trouve que pour des enfants de 3 ans qui sont déjà suffisamment impactés, on va dire, dans la réalité, c'est pas la peine de, à mon avis, je trouve que c'était super l'idée de l'animal, parce que c'est pas la peine de revenir leur mettre sous le nez des visages humains en colère ou tristes. Il y a une manière. On invite aussi l'enfant, c'est ça qui est beau, on fait un peu le lien entre la psychologie et le monde de l'image, c'est que quand on dessine quelque chose, on le sublime. Quand on regarde un tableau, une œuvre, un dessin, on n'est plus tellement dans la réalité, mais on est dans une forme de sublimation déjà, d'explication. On intellectualise un peu et on met un peu de distance. Et quelque part, même si l'enfant il est vraiment complètement dominé par le stress, l'angoisse et la peur, à travers ce livre, l'accompagnant, il va l'aider à mettre à distance et à un petit peu quelque part réfléchir à la situation, quoi.
C'est un livre qui témoigne de la violence et de la colère, mais aussi de l'espoir, de l'amour et de la tendresse. Pour nous, les adultes, mettre des mots sur ce que l'on ressent, c'est déjà très dur. Pour les enfants, c'est encore plus compliqué, parce qu'ils, peut-être, ils captent même pas ce qu'ils sont en train de traverser. Alors, ils ressentent évidemment qu'il y a un bouleversement et tout, mais c'est difficile de mettre des mots sur ces émotions. Comment est-ce que toi, dans tes illustrations, tu as décidé de transmettre toutes ces émotions? Est-ce que tu t'es attaché, tu as mis un point d'honneur justement à la question des émotions?
Bah oui, parce que c'est il y a vraiment une grosse sensibilité, et puis je sais que les enfants ils sont très courageux. Moi, pour avoir vécu des situations on va dire un petit peu semblables, vraiment je sais que les enfants sont vraiment costauds, et surtout ils sont un peu aussi ils pensent que la situation qu'ils vivent elle est normale.
Et puis ils sont empathiques aussi.
Mais oui, eux ils savent pas que cette ambiance de dysfonctionnelle, de violence, de cris, ils savent pas que c'est pas la bonne. Eux, pour eux, c'est leur ambiance. Donc si on va vers eux pour leur dire c'est pas bon, même s'ils sont en état de fébrilité et d'angoisse, pour eux c'est un état normal. Donc il y a beaucoup de... Alors c'est vraiment de la délicatesse, c'est-à-dire que l'enfant il va être un peu réticent, c'est-à-dire qu'on voit la petite Marthe dans certaines images, elle est un peu isolée, elle est seule d'ailleurs sur la couverture, elle est seule, parce que quand on est... il n'y a pas de sol, parce que quand on vit ce genre de situation, même je dirais même adulte, hein, quand on est confronté, on est un peu en apesanteur, on n'a pas de repère. C'est-à-dire qu'on est seul en face d'un couple qui s'engueule, en face de dans une situation où il n'y a personne qui nous regarde nous et qui s'occupe de nous. Bah du coup on est seul, et cet enfant-là encore plus d'ailleurs chez les enfants. Hein, bah du coup elle est seule, et on la voit au fur et à mesure. On la voit un peu en décalage à l'école, elle bouge, elle s'agite alors que les autres enfants sont concentrés sur ce que dit le maître. Quand elle est intégrée dans un groupe où il y a quelqu'un qui l'accueille, elle reste toujours un peu en retrait, parce que le lien avec les autres. Mais ça c'est vraiment tout en finesse. On peut pas mettre un enfant qui... Alors c'est les petits doudous un petit peu, c'est les petits doudous qui jouent le rôle de la fuite, de la colère...
Et du transfert aussi.
Mais oui, parce que les enfants, ils s'attachent beaucoup, et finalement elle n'est pas si seule parce qu'elle a ses petits doudous. Et c'est vrai qu'à travers les petits doudous, je pense que les enfants le verront. Ils verront les petits doudous qui sont fâchés.
Qui ressentent les émotions. Ouais. À sa place, à elle qui n'arrive pas à les exprimer.
Bah ouais.
Alors finalement, moi ce que j'ai trouvé très très doux dans ce livre, c'est qu'il ne condamne jamais. Il ne condamne jamais, il est nuancé, il rappelle qu'il y a des moments de douceur, d'amour et de dialogue, aussi bien que des moments de douleur, de violence et d'incompréhension, mais il y a les deux en fait dans ce livre, et il offre aussi l'espoir d'une solution. Est-ce que c'était important pour vous toutes les deux de mettre de la nuance dans un sujet comme celui-ci?
Mais oui, parce que forcément il y en a. Évidemment que les parents eux-mêmes qui sont dans cette situation où ils s'entendent pas, où c'est triple là, eux-mêmes ils ont en eux quelque chose de positif et ils aimeraient que ça marche. Donc, toutes ces choses compliquées, toutes ces nuances, c'est vrai que Emmanuel, qui est du coup celle qui a écrit le texte, qui est psychologue, elle en a vu des parents qui étaient désespérés parce que eux-mêmes entre eux, ils fonctionnaient pas et ils voyaient très bien que leur enfant, du coup, mais voilà. Après, c'est oui, effectivement. Et puis ce qui est bien, c'est que en fait, quand dans le titre, il y a qui s'occupe de Martha, point d'interrogation, parce que quand c'est pas les parents qui peuvent le faire, il y a toujours quelqu'un autour. Là, on a mis nous les voisins de la forêt, mais ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un instit, ça peut être n'importe qui intervient, parce qu'il y a une société autour d'une famille. La famille, c'est elle est pas toute seule. Voilà, il y a une société autour. Il y a encore des structures, des gens qui viennent, qui aident. L'espoir, il est là. C'est-à-dire que si quelqu'un s'intéresse à un enfant qui voilà ou à une famille qui dysfonctionne, il peut y avoir des solutions et possibilités de soigner. Ouais.
Un livre plein d'espoir, très beau, qui peut donc toucher. Alors, tu as dit tout à l'heure, au tout début de l'interview, que c'était pas un livre qui était fait pour les libraires, mais néanmoins, je pense que c'est très important de savoir que ce livre, il existe, en fait, et qu'on peut le confier, le mettre entre les mains, le en parler, en fait.
Oui, c'est vrai que, en fait, parce qu'on se dit, bon, je vais aller acheter un bouquin pour l'anniversaire de mon petit, les libraires, ils peuvent pas conseiller ça. Par contre, c'est bien, évidemment qu'il faut qu'ils soient en librairie, parce qu'il y a toujours un instit, il y a toujours un médecin qui veut mettre ça dans sa salle d'attente. Il y a toujours
oui, ou je pense aux proches aussi qui voient que l'enfant vit ça en se disant bah, oui. Peut-être il peut comprendre.
Mais tout à fait, et puis des enfants peuvent lire ça parce que même si on n'est pas directement concerné, on peut repérer des choses et puis dire de toute façon les livres ils sont toujours tous bons à avoir.
Puis on peut avoir un copain ou une copine à l'école qui a vécu ça aussi.
Ouais, moi je verrais bien ça dans les casiers à l'école, dans les bibliothèques, dans les salles d'attente.
Je verrais bien un peu partout.
Ouais. Ben, oui, normal.
Merci beaucoup Cécile de nous avoir parlé de ton dernier livre Qui s'occupe de Martha, paru aux éditions Utopiques dans la collection Bisous de famille, enfin tout qui va paraître là, un livre que tu as illustré et qu'Emmanuel Toussaint a écrit. On fait une courte pause en musique avec Lana Del Rey et le titre Ultraviolence. Désolée, c'est pas, mais c'est un très beau titre, vous allez l'entendre. Et juste après, on va parler de nutrition, d'assiette et de santé. Alors juste une dernière chose avant qu'on mette un titre musical, je vous rappelle deux numéros de téléphone, le 119 pour Enfance en danger et le 3919 pour les proches et les femmes victimes de violence. On se quitte donc avec Ultraviolence, mais on se retrouve dans quelques instants.
For deadly nightshade, 'cause I was filled with poison, but blessed with beauty and rage. Jen told me that it hit me and it felt like a kiss. Jen brought me back, reminded me of when we were kids.
Never enough. If it's all travails, all travails. están. Yo soy la princesa, comprende mis white lines, 'cause I'm your jazz singer and you're my cult leader. I love you forever, I love you forever.
Ultra Violence de Lana Del Rey sur Bram FM.
Vous êtes ici sur Bram FM en direct jusqu'à 14h.
Et à mes côtés dans le studio, j'ai le plaisir d'accueillir Noé. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Tu es l'invité de Cécile aujourd'hui. Vous êtes voisin et c'est un grand plaisir de te rencontrer.
Oui.
Noé, tu es étudiant en diététique et en médecine orthopédique. Moléculaire. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es passionné de nutrition et tu consacres ta vie à partager ton savoir pour qu'un maximum de personnes soient en bonne santé. Ton slogan, c'est même découvrir les aliments sains pour prévenir et inverser les maladies. Tout d'abord, avant que je te laisse parler, peux-tu nous aider et nous éclaircir sur ce qu'est la médecine orthomoléculaire ?
Alors, déjà, merci de m'accueillir pour partager une petite goutte de ce qui me passionne. La médecine orthomoléculaire, en fait, c'est plus communément appelé la nutrithérapie, c'est plus simple. Et en fait, c'est l'application de la biochimie, donc des molécules biochimiques, pour prévenir les pathologies. Voilà.
Cécile, avais-tu des questions pour Noé ?
Pas encore. J'attends. Non.
Pardon. Tu me fais signe quand tu.
Oh, d'accord. Oui. Mais t'inquiète pas. Je ferai signe si y a quelque chose qui. Je vais le laisser commencer.
Tu voulais. Juste, on peut peut-être rappeler rapidement ton histoire. Tu as été cuisinier dans un premier temps. Comment est-ce que la transition s'est-elle amorcée?
Alors, il y a beaucoup de facteurs. Déjà, le fait que je travaillais en cuisine, j'avais toujours cette passion pour les aliments, cette curiosité de savoir. Pourquoi tel végétal apportait autant de bienfaits. Et il y a eu un élément déclencheur, on va dire des soucis familiales de santé de mes proches qui m'ont fait réaliser l'importance et même appliquer aussi une nouvelle alimentation. Et j'ai remarqué que ça avait des résultats énormes, que ça avait permis à cette personne de ma famille à vivre plus longtemps, j'ai envie de dire. Et du coup, cet élément déclencheur qui m'a fait passer de la reprise d'études, en fait. Voilà.
Et tu es venu aujourd'hui avec une chronique sous le bras. Tu vas donc nous éclairer sur nos assiettes, on t'écoute.
Alors, en fait, je voulais parler aujourd'hui du lien des algues et de l'immunité, en fait, parce que c'est quelque chose qui est très sous-estimé. Et comme l'immunité, c'est un milieu très complexe, c'est d'ailleurs le système de notre corps humain qui est le plus complexe après le système nerveux. Donc je suis obligé de nicher un aliment par un aliment. Et aujourd'hui, ça va être les algues. Donc voilà. Tout d'abord, savez-vous combien de quantités d'algues sont récoltées chaque année dans le monde ?
En tonnes ?
En tonnes, ouais.
100 millions.
Moi, j'ai 10 millions.
Ouais, c'est exactement ça.
Ah ouais,
9
c'est
à 10 millions, ouais.
Mais
c'est
déjà énorme. J'ai appris il y a 2 semaines que toutes les algues, à l'exception de peut-être une, sont comestibles.
Ouais. Et il y a même aussi toutes les algues qui sont sauvages. Et là, on en compte 1 à 2 millions. Et pourtant, on n'en voit pas tous les jours dans nos assiettes. Et c'est peut-être aussi lié à notre culture et à notre zone géographique, car les pays asiatiques, eux, en consomment régulièrement. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà aperçu des salades d'algues dans les restaurants asiatiques. Il y en a beaucoup dans les restaurants à volonté, etc. Et il existe de nombreuses algues qui poussent dans les zones maritimes en France. C'est pourquoi on retrouve des fois en poissonnerie des algues qui s'appellent la salicorne. Je ne sais pas si vous avez déjà... qui est souvent appelée la laitue de la mer. D'ailleurs, rien que d'y penser, ça me donne faim.
Mais ça a quand même un goût très salé, quoi.
Ouais.
On reste quand même dans le domaine maritime.
C'est vrai. Et figurez-vous que ces algues ne sont pas juste bonnes à manger. Et c'est là que ça devient intéressant. Des études montrent qu'elles pourraient même nous aider à rester en bonne santé. Par exemple, il semble que les femmes enceintes qui mangent plus d'algues se sentent moins déprimées et souffrent moins d'allergies. Et ça, c'est juste sans parler du iode, parce que dans tous les produits de la mer, les aliments sont riches en iode. Ça a plein d'effets positifs, parce que dans les produits de la terre, c'est très rare. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on rajoute du iode dans le sel de table. Par contre, attention, il ne faut pas sauter aux conclusions trop vite, pardon, car les études nous donnent des indices, mais elles ne prouvent pas que c'est grâce aux algues seules. Est-ce que ce sont les algues qui sont si saines, ou est-ce que ce sont les personnes qui mangent des algues qui ont une alimentation saine?
Pleine question.
Et ça, en science, on appelle ça la causalité inverse. Et pour en avoir le cœur net, les scientifiques ont fait des tests en laboratoire. Ils ont pris différentes sortes d'algues et les ont transformées en une sorte de thé. Je vous laisse imaginer le goût. Puis, dans une boîte de pétri, ils ont versé ce thé d'algues sur des cellules de notre système immunitaire. Et là, bingo, ils ont découvert que certaines algues, comme le wakame, qui est beaucoup utilisé au Japon par exemple, qu'on retrouve aussi dans les salades d'algues, pourraient aider nos cellules à se défendre contre les virus. Et les chercheurs ont même essayé de donner du wakame en poudre à des personnes atteintes d'herpès. C'est un virus qui se transmet quand vous bombardez de bisous votre conjoint ou votre conjointe. Et devinez quoi, ça a vraiment aidé à réduire leurs symptômes. C'est très prometteur et il faut savoir que la recherche n'est que récente dans le monde des algues. Donc dans 10 ans, je pense qu'il va y avoir énormément d'études scientifiques qui vont démocratiser en fait les algues, ce qui est plutôt une bonne chose. Les chercheurs se demandent aussi si les algues pourraient aider à renforcer l'efficacité des vaccins, surtout chez les personnes âgées. Ils ont essayé avec des volontaires de plus de 60 ans qui ont pris de l'extrait de wakame avant de se faire vacciner contre la grippe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Leur réponse immunitaire était boostée, vraiment boostée. De plus, les études montrent que la consommation d'algues augmente les cellules T de notre corps, qui sont en fait un type de globule blanc essentiel pour notre système immunitaire. Et moi, ce que je trouve vraiment gratifiant en fait avec les aliments complets d'origine végétale, contrairement à certains médicaments, c'est que même quand la science n'a pas tout démontré, on peut profiter de leur palette de bienfaits avant d'en savoir les détails scientifiques. Donc, mangez vos algues.
Merci. Une question.
Une seule question. La spiruline, tu connais?
Ouais.
Parce qu'en ce moment, c'est un truc, ça. Je sais pas si t'as remarqué, mais tu.
En ce moment, ça fait quand même quelques années. Hein.
Ah ouais, pardon. C'est que j'ai découvert il y a 3 semaines. Mais la spiruline, c'est une algue. C'est une algue.
Oui, c'est une algue.
Bah, ça y est, ça commence déjà à entrer déjà dans nos habitudes, en tout cas.
Je suis étonnée que Isabelle Vedren n'ait pas encore passé la porte pour venir nous parler de spiruline. Merci beaucoup, Noé. Bah, j'espère qu'on aura l'occasion de te réentendre à l'antenne de Bram FM pour des chroniques sur ce sujet. Je trouve ça très intéressant et en plus je trouve que tu le fais très bien. Voilà, c'est rare que je le dise à l'antenne, mais écoute, merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec moi aujourd'hui. Peut-être tu peux rappeler juste où est-ce qu'on peut te joindre et peut-être l'adresse de ton blog, parce que tu as un super blog avec plein d'informations, plein d'articles et tout. Est-ce que tu peux redonner toutes les infos concernant ton activité?
Oui. Alors merci beaucoup déjà, et vous pouvez me rejoindre sur mon site happynutri.org, et sinon après je suis présent sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast.
Merci beaucoup Noé, et merci à toi Cécile d'avoir été à mes côtés aujourd'hui pour cette émission. Dans quelques instants, on parlera en occitan avec Michel Feltin-Palas. Ce sera le rendez-vous avec Sur le bout des langues, la chronique 100% occitan. C'est juste après le journal régional, il est 13h30. Vous êtes ici à l'écoute de Bram FM, bien sûr.
L'actualité en Limousin et Périgord, le journal des radios associatives libres. Sébastien Péjou.
Bonjour à tous, mercredi 17 janvier 2024. Prudence sur les routes, nous le répétons beaucoup, car malheureusement les accidents sont nombreux ces derniers jours. C'est en partie lié aux conditions météo. Hier, quasiment toute la journée, la circulation était compliquée en Creuse sur la RN 145 après un accident entre les échangeurs de Souman et Gouzon. Hier matin, un poids lourd a été détruit par le feu. Le chauffeur a juste eu le temps de s'extraire du véhicule, le temps d'évacuer le camion et d'effectuer des travaux de réparation sur les glissières. La circulation était fortement ralenti. Autre accident en Dordogne qui a provoqué carrément la fermeture d'une route une partie de la journée sur la commune de Chantérac. 2 camions se sont percutés sur la RD44. Un camion Ben et un camion transportant des produits phytosanitaires, produits qui ne se sont pas déversés sur la chaussée. Le choc n'a fait aucun blessé. Les 6 tracés prévoyant la déviation de la RD901 à Varès ont été présentés hier soir. 6 tracés afin afin de dévier la fréquentation des quelques 14 000 véhicules comptés en moyenne chaque jour dans la commune. Pour l'instant, l'heure est à la concertation des habitants. Une concertation d'autant plus importante pour le département qui a la gestion des routes que le dossier de la déviation de Varès est dans les tiroirs depuis plus de 20 ans, souligne le président de l'exécutif corrézien Pascal Coste.
La population nous demande de fluidifier le trafic sur cette 901, qui est la route la plus passante de la Corrèze. C'est un projet qui avait été abandonné pour des raisons financières par le département du temps de François Hollande. Aujourd'hui, on investit sur route 2030 avec une capacité à pouvoir la faire. Donc on la propose à la consultation du public. On va écouter ce qu'ils ont à nous dire. On verra si les propositions qu'on fait sont valables. Si c'est le cas, on arrêtera un fuseau, on ira au bout. Et puis l'enquête publique dira si on peut la réaliser ou pas. En tout cas, c'est aujourd'hui à la concertation.
La concertation publique a débuté hier et se terminera dans un mois, le 16 février. Le dossier est accessible dans les mairies et sur le site internet du département. À l'issue de la concertation, les élus définiront le tracé lors de la séance plénière de juillet. Les premiers coups de pelleteuse ne pourraient commencer qu'en 2027. Merci à Olivier Serac de RGB d'avoir recueilli les propos de Pascal Coste. Il est accusé du meurtre de Justine Vérac. Il a été condamné hier pour destruction de biens d'autrui au moyen d'un procédé dangereux. Aucun lien entre l'affaire du meurtre de la jeune lotoise en octobre 2022 et cet incendie criminel de début août 2020, une nuit durant laquelle le hangar d'une ferme de Saint-Hilaire-Pérou est parti en fumée, ferme dans laquelle l'accusé était en stage. Le tribunal correctionnel de Tulle a condamné le jeune homme de 22 ans à 2 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Deux plaintes déposées après deux actes de vandalisme dans une épicerie de Dordogne. L'échoppe périgourdine de Castelnau-la-Chapelle visée par des attaques aux bouteilles inflammables le vendredi 12 janvier et lundi passé. Les dégâts causés par la deuxième attaque contraignent le commerce à temporairement fermer ses portes. Il faut renforcer la lutte contre les trafics de drogue, a déclaré le chef de l'État hier soir dans sa conférence de presse. Les forces de l'ordre traquent déjà beaucoup les trafiquants. Autre exemple, à Limoges, avec l'interpellation d'un homme de 26 ans pour détention et vente de stupéfiants. Lors d'un contrôle d'un point de deal, les policiers ont pris en flagrant délit un dealer et son client. Une perquisition a été menée chez le vendeur d'herbes de cannabis. Il sera jugé le 10 juin prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.
Vous êtes ici en direct sur Bram FM.
Dans quelques instants, à 13h50, vous entendrez la chronique en Limousin, suivie de la météo. Isabelle Vedren est à mes côtés pour nous faire découvrir le titre de son choix. C'est donc à elle que je vais tendre le micro désormais.
Vendredi prochain, donc... Pardon, après-demain, le 19 janvier, figurez-vous que George Clinton, alors non pas l'ex-président, mais le génie fondateur de Funkadelic et Parliament, recevra une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. À 82 ans, vous me direz, ça ne fait qu'une étoile de plus qu'il arbore à ses tenues déjà bien multicolores. La cérémonie, prévue à 11h30 devant le Musician Institute, aura la forme d'une sorte de réunion de musiciens, avec notamment Anthony Kiedis, des Red Hot Chili Peppers, parmi les orateurs. Alors les Red Hot qui ont collaboré avec Clinton sur l'album Freaky Styley en 85 déjà, hein, considèrent, je cite, George Clinton comme une lumière cosmique et salue son impact intemporel. Pourtant, en parlant de cet héritage et au-delà de toute récompense ou distinction, Clinton reste humble, préférant se concentrer sur le présent. Il est actuellement engagé dans 3 projets musicaux à 82 ans, hein, et ça donne également à l'art visuel depuis un bon moment. Pour lui, ce genre d'événements n'ont pas d'autre sens que celui de refléter les collaborations avec de nombreux musiciens au fil des décennies. Il n'est donc jamais avare d'enthousiasme, et là, il exprime largement sur ce coup-là à l'idée de voir les Red Hot se réunir pour l'événement, rappelant avec plaisir cet enregistrement de Freaky Styley dans sa ferme de Brooklyn, qui fut pour le moins épique. Sa capacité à inspirer les artistes, sa philosophie incarnée dans toute son œuvre souligne son approche de la musique mais aussi de la vie. On écoute tout de suite un extrait de l'album de Funkadelic « Free Your Mind and Your Ass Will Follow » sorti en 1970, la bonne époque, hein, qui s'intitule « I Wanna Know If It's Good To You ». C'est mon titre du jour.
I wanna know if it's good to you de Funkadelic, le titre du jour proposé par Isabelle qui reviendra à 13h55 dans sa robe couleur du temps bien sûr.
Vous êtes ici en direct avec Eve Hermari.
Et on reprend les bonnes habitudes en ce début d'année. Je ne vais pas vous parler du dry January. Est-ce que vous avez arrêté de boire en janvier, oui ou non? Est-ce que vous avez arrêté de vous raser sous les bras en janvier, oui ou non? Eh ben, on s'en fiche, en fait. Bien que l'abus d'alcool soit dangereux pour la santé, mais je pense que d'abuser du rasoir, c'est un peu dangereux pour la santé aussi. Sachez tout de même, non, que je ne vais pas vous parler de ça. Je ne vais pas vous dire à quelle heure il faut vous coucher le soir. Est-ce qu'il faut mettre dans votre assiette? Ça, c'est plutôt Noé qui s'en occupe. Moi, je vais vous faire... Travaillez un peu votre occitan, figurez-vous, en ce début d'année, avec la chronique sur le bout des langues proposée par Michel Feltin-Palas et Radio Pays. On les écoute sur Bram FM.
Aliou Mikkeu, a questo semana per la tua prima lettera dell'annata, has decidi di t'intéresser aux smuts che en français, signifie qu'on avait le contrary de ce que Bouleouen disait à l'origine.
Et oh, Emilio, en potes disait, par exemple, ce qu'il voulait lui dire, eu haussien.
Ah bah, tu es solide. Est-ce qu'il y a aucun qui prend le sous-conjet au mes d'auguste?
Exactement. Mais tu, quand le mot est inventé à la fin du siècle de Zenabau, qui désignait lui qui demeurait en ville au mes d'auguste en ta tribalia. Le contrary.
Ah, et connaissez d'autres mots qu'on a vu à ce type de boulussou?
Romantus, prenne crudivore, qui est impliqué en ta parla de la personne qui mangeant la fruit et la verdure, cruz. Mais au commencement, au siècle de Zenabau, en Guerucop, eu crudivore, qui est au caucu qui mangeait la sua carne crudo, le contrary du végétarien. Parlé per suspicieux, oui, que parlam du personne suspicioso, per caucu de Menchidec. Mais tu, au siècle 14 ans, à queste cop, esta suspicius, que boule dise habade lu suspiet, lu contrari en quel cop.
De berai que susprinent, ako. Nas une des mails d'exemple?
Eh bien, grève. À l'état, miesense, la place de grève à Paris, désignavo lu loc acustat de la Seine, lu ribage, unus tribaliadus vienen enta cerca tribali. Esta en grève, que pour les dire, esta désoccupat tout en demandant un plec. Et drin à drin, la signification qu'a cambiat, enta significa arresta volontariamente lu tribal. Et vedes que déjà en français, Herodimus, qui a cambié de sens au brio du temps, c'est qu'il est normal, per mu toutes les langues viventes que connaissent évolutions. Toute la difficulté de ségur qu'il de savait à compter de quand il y a eu un terberguetos et il va la norme navero.
Et à quoi est une question plat intéressante de Hurga. Merci au plat Mikkeu Feltin-Palas. Et Soulide, si vous voulez savoir mais sur cette thématique, là tu as derrière nouvelle lettre sur le bout des langues, est-ce des bons légis ou city de l'Express, vous y pouvez être à Bouna et ajoutez d'ici à quoi Québec Mikkeu.
Au cop qui vient, la semaine qui vient, d'applaudir comme tout stem.
Allez, chats.
Sur le bout des langues de Michel Feltin-Palas et Radio Pays, la chronique 100% occitan à retrouver en podcast, mais vous pouvez aussi la retrouver en version papier et en français sur le site de l'Express. La chronique s'appelle Sur le bout des langues. Dans quelques instants, c'est votre rendez-vous avec la chronique en Limousin. Il me reste 3 minutes, juste le temps de vous passer un titre de Thomas Fersen qui s'appelle Croque.
Quand je rentre à la maison, elle me dit souvent que j'ai une tête d'enterrement. Et elle a raison, je travaille au cimetière, c'est incontestable. Je laisse ma tête au vestiaire et je me mets à table. Faut pas se laisser abattre, j'ai une faim de loup. Moi je mange comme quatre et je bois comme un trou. Puis je retourne au cimetière, travailler mon mieux. Digérer mon pot de bière et mon croque-monsieur. Pendant l'oraison du prêtre, j'ai un petit creux, moi je pense à ma côtelette. à mon pot au feu, aux premières couronnes de fleurs. J'ai déjà la dent, c'est mon estomac qui pleure à chaque enterrement. Comme un côté du cimetière inhabité, j'ai planté des pommes de terre dans l'intimité. Et dans ma jaquette noire, entre deux services, je donne un coup d'arrosoir et je cours à l'office. Je gratte, je bine et je bêche, quelle heureuse surprise. Quand je trouve un verre pour la pêche, je range ma prise dans une boîte en fer blanc, le temps est superbe. Voilà un coin épatant pour déjeuner sur l'herbe. À présent qu'a sonné l'heure, l'heure du goupillon, je pense à mes pommes vapeurs, à mon courbouillon. Et quand tombent les premières gouttes sur mon ventre de femme, c'est mon ventre qui glougloute, mon ventre qui rogne. Je croque un oignon, parfois une gousse d'ail, parfois même un champignon est une victuaille. Il faut faire avec, ce n'est pas copieux, car ces oraisons du prêtre, on n'en voit pas la queue. Le vent chasse les nuages, c'est providentiel. Un grand disque de fromage tourne dans le ciel. La faim me monte à la tête, j'avale mon chapeau, un bouton de ma jaquette et un pauvre mulot. Je ne suis pas dans mon assiette, je vais rendre l'âme quand je pense à mes piètes. À mon croque-madame, ça fait trop longtemps que ça dure. Je m'allonge un peu sur le tapis de verdure et je ferme les yeux. Ça fait trop longtemps que ça dure.
Dans l'assiette de Thomas Fersen avec le titre Croc à 13h51 sur Bram FM. C'est l'heure de votre rendez-vous avec les chroniques en Limousin. Et juste après, ce sera la météo de demain. Ça rime. À tout de suite.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine. Le rendez-vous de ses territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Le musée de la Résistance a reçu des objets d'une résistante limougeaude très peu connue. Un cartable, des photos, deux familles et les récompenses de Germaine Ribière seront bientôt visibles dans les vitrines. Ils ont été remis par l'historienne Claude Penin. Aujourd'hui, vous faites ce don pour Michèle Courtex, la nièce de Germaine Ribière. Pourquoi faire ce don en particulier aujourd'hui ?
Alors, je fais ce don aujourd'hui parce que j'ai été contactée par La Roche-sur-Yon, où habite Michèle Courtex, qui entre en EHPAD et il faut qu'elle vende son appartement. Et donc, j'ai fait savoir à qui de droit qu'il fallait faire attention à ne pas vider l'appartement sans récupérer. Et à ce moment-là, Michèle Courtex a dit « on peut donner le cartable parce que j'en ferai rien du cartable ».
Qu'est-ce qu'il représentait dans la vie de la résistante qui était Germaine Ribière ?
Un rôle crucial parce qu'il fallait en train traverser. Aujourd'hui, pour aller à Paris, on se plaint de 3h30, etc. À l'époque, c'était 6h30 pour monter de Limoges à Paris. Elle allait à Paris parce qu'on l'a prise dans l'équipe nationale de la GEC et là on lui a donné à travailler sur les lycées, ce qui lui a permis d'avoir des amis un peu dans la France entière. Et en 1941, elle s'est dit il va falloir cacher les juifs. Elle a observé justement dans tous les lieux où il y avait des gécistes, les trois ou quatre qui seraient fiables. Si elle montait quelque chose, un réseau, Il fallait que ça soit fiable. Et elle avait ma tante et plein d'amis à Poitiers. Elles étaient une petite dizaine à Poitiers. Il y avait un camp de concentration à Poitiers. Le camp de la route de Limoges. Et donc, elles ont su très vite la violence qu'il y avait dans ce camp de concentration. Et c'est de là que partaient les trains complets dans lesquels on mettait les Juifs. On les arrêtait sur la ligne de démarcation qui est très proche de Poitiers et pas de Limoges. Et donc, elles, qu'est-ce qu'elles faisaient? Entre Poitiers et Limoges, elles ont fait passer. Elles ont récupéré des enfants un peu perdus parce que les parents passaient trois pas derrière les enfants. Les enfants sont passés par les parents qui se sont fait arrêter. Et donc, elles récupéraient les enfants. Pas toutes seules, il y avait un abbé glorieux. Et après, Germaine Ribière avait le culot de demander à tous les chrétiens, mais même des curés de campagne, l'aide aux persécutés. On lui a ouvert les portes partout, le plus discrètement du monde. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas exactement dans quel couvent elle a caché à Limoges les enfants d'Ombes. Cette histoire n'est pas écrite parce qu'il n'y a aucune trace, il n'y a pas d'archives.
Elle y cachait des faux documents, c'est bien ça?
Je peux vous dire aussi qu'il y avait de l'argent, parce que quand on plaçait les enfants à la campagne, les gens qui accueillaient, qui étaient des non-juifs, les Allemands exigeaient de placer les enfants dans des familles juives. Donc si on pouvait faire échapper les enfants avant qu'ils arrivent à Poitiers, on les mettait dans des familles non-juives. Et il fallait quand même payer un peu de pension, parce que les gens à la campagne, ils avaient besoin de ça. Donc elle a amené par exemple 100 000 francs, c'est écrit par le père Fleury, 100 000 francs qui ont permis de payer l'argent pour une trentaine d'enfants qui avaient été placés par des assistantes sociales de Poitiers, qui n'étaient pas Germaine Rivière. Mais Germaine Rivière venait elle-même. Elles arrivaient par une petite gare qui est sur la voie ferrée de Bordeaux. Et en descendant là, elle venait avec des auxiliaires en quelque sorte. Et elle venait en personne aussi. Alors là, elle a plutôt amené des adolescentes. Certaines sont restées 2 mois, d'autres beaucoup moins. Parce que à Poitiers, que faisait ma tante, que faisaient les amis de ma tante? Elle cherchait des adresses où cacher les enfants. Et quand il fallait donner les sous, Germaine Rivière a obtenu des sous. Alors il y avait le Joint, qui est un organisme américain des Juifs. Et puis ensuite, il y a eu les gaullistes qui ont fait passer l'argent à Yves Farge, qui a fait passer l'argent à Germaine Ribière, qui connaissait de Lyon.
Au final, la résistante limougeaude qui était Germaine Ribière reste très peu connue de l'histoire. Est-ce que ce don peut permettre de faire connaître le rôle qu'elle a eu dans la résistance?
Faire connaître parce que les enfants de 3e seconde, il y a une tranche d'âge dans laquelle ils sont très sensibles. Alors quand on a des témoins à leur présenter en classe, c'est fabuleux, il n'y aura plus de témoins. Il est très très important, et je sais que le musée de Limoges est quand même très très compétent, très bien fait, très attractif pour les jeunes générations. Mon père avait fait de la résistance, donc je connais ça depuis toujours. Mais le côté juif, je l'ai étudié parce que j'ai fait un voyage à Auschwitz avec des professeurs et des documentalistes. Et donc, du coup, on a travaillé sur des témoignages de juifs de l'Europe entière. Et quand j'ai commencé à étudier ce dossier-là, parce que ma tante, les yeux brillants, m'avait dit « Tu sais, la grande résistante, c'était Germaine Ribière », je me suis servie de ce que j'avais appris, en fait. Et donc, j'ai étudié, mais vraiment en historienne, hein. C'est-à-dire croiser les sources pour vérifier le moindre détail.
Merci beaucoup. Pour le Graal, Lucie Alix, RCF Limousin.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Et la chronique en Limousin est sur les ondes de Bram FM le matin, à écouter entre 6 et 9 par exemple. Pour l'heure, j'ai l'immense plaisir de retrouver derrière ce micro Miss Météo.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau.
Ouais, oui, j'étais obligée de la mettre et puis je peux pas la couper. Je peux pas couper.
C'est vrai qu'on peut pas, c'est dur à couper.
Et encore, je m'autorise à la couper parce que. Après, on sait ce qui arrive derrière, ça envoie à fond. Ouais. Mais ce début, je ne peux pas le couper.
Parmi quand même les meilleures reprises de Brassens que j'ai entendues.
Très
qui souvent sont toujours sympas, c'est toujours sympa de reprendre du Brassens, mais c'est rarement utile.
T'as très très bien repris Brassens hier.
Ouais, mais furtivement, hein. Et franchement, je suis loin quand même de Catherine Ringer. Bon, en tout cas, question météo, ben, contrairement à aujourd'hui, la météo de demain, jeudi 18 janvier, c'est bon, ouais.
C'est ça.
Va être surprenante. Non pas grâce à la couleur du ciel, hein, nous resterons en effet sous la grisaille des poterons minés et pour toute la journée. Avec des pluies éparses sur l'ensemble du territoire corrézien, l'inattendu sera du côté des températures qui seront, tenez-vous bien, plus élevées dans la matinée que dans l'après-midi. En effet, le mercure affichera de 8 à 12 degrés le matin, donc du nord au sud du département. Et puis après, ça se rafraîchit sensiblement au cours de la journée, puisqu'on attend plus que 5 petits degrés à Trégnac, 6 à Ussel et Aigleton, 7 degrés à Userche, 8 degrés à Tulle, 10 à Brive et à Beaulieu et la maximale sera de 11 degrés à Argentat. Ceci sera annonciateur pour le tout début du week-end, mais je vous en dirai plus demain.
C'est beaucoup trop. Merci beaucoup, Miss Météo.
À demain.
Oui, à demain. C'est la fin de cette émission en direct. Merci à Thomas, merci à Cécile, à Noé, à Isabelle et merci à vous, auditeurs et auditrices. Merci aussi à Michel Feltin-Palas et à Radio Païs. Cette émission est à retrouver en podcast sur le site de Bram FM. Faut que j'arrête de rouler les airs dans la rubrique Vous êtes ici. La suite du programme, tout de suite là, dans deux minutes, juste après Anita Farmin, ce sera le Labo des Savoirs. Et moi, je vous retrouve demain avec les membres de la salle des Landes qui chantent pour parler programmation musicale et Audrey. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. N'importe quoi. Très bel après-midi à l'écoute de Bram FM.